Salut à tous! Bienvenue sur Service Action, c'est Norage et vous êtes dans le balado le plus légendaire du jeu. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aborde comme sujet? On va analyser la vulnérabilité GitLab CVE 2023 7028. Avant d'en dire plus, le plan de cet épisode. On va rappeler très brièvement ce que c'est GitLab, voir rapidement les caractéristiques de cette vulnérabilité. Ensuite, voir plus en détail comment on exploite ces vulnérabilités. On va continuer en rappelant les plus-values pour l'attaquant et qu'est-ce qui fait que cette vulne elle a fait beaucoup de bruit. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut regarder si on veut faire de la recherche de compromission? Et enfin, je vais finir par l'introduction. Petit jeu de mots, c'est comment cette vulnérabilité, elle a été introduite dans le code source et comment c'est possible et comment on justifie que ça a pu être possible. Et à mon avis, ça va être la partie la plus détaillée et la plus intéressante. Et bien évidemment, la plus intéressante, elle est à la fin pour que vous restiez écoutés jusqu'au bout. Et oui. Alors, commençons par le début. GitLab, qu'est-ce que c'est? GitLab, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour les rares qui ne connaîtraient pas, c'est une forge logicielle. C'est-à-dire que c'est un espèce de gros logiciel tout en un où dedans on va avoir la gestion de code source, donc avec Git, différents, tout un tas d'intégrations et de quoi faire de l'intégration continue et du déploiement continu, tout un tas d'outils de collaboration. Enfin, on pourrait passer des heures à énumérer toutes les fonctionnalités, mais ça fait beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, comme ils ont une version qu'on peut déployer sur son infrastructure, qui est gratuite, une version limitée, la version communautaire, et ben c'est très déployé dans beaucoup d'infrastructures internes d'entreprises. Donc c'est intéressant pour par exemple les tests d'intrusion, par exemple. Et qu'est-ce que là comme caractéristique du coup cette vulnérabilité? Bon, déjà on a un niveau de risque critique, alors qu'un score CVSS V3 de 7.5 selon le NIST, là, donc l'espèce d'organisme officiel américain qui gère la base de vulnérabilité, et de 10.0, donc la note maximale selon le CNA. Donc CNA, c'est l'organisme qui attribut qui est responsable pour un produit donné d'affecter les CVE. Donc là, en l'occurrence, c'est GitLab. Parce qu'en fait, c'est quoi les CNA? Pour faire une petite digression rapidement en début d'épisode, c'est que en fait, il n'y a pas un seul organisme, il y a plusieurs. C'est un peu comme pour les noms de domaine, quoi. Il y a plusieurs organismes qui sont responsables en fonction du produit qui est impacté. Donc, par exemple, le plus connu, c'est le MITRE, parce que pour tout, qui est pareil aussi un organisme américain. Donc, pour tout ce qui est open source, en gros, si on veut si on veut résumer simplement, ça va être le MITRE qui va être chargé de trier, d'assigner des numéros, etc., de CVE. Mais après, en fait, par exemple, pour tous les gros éditeurs, en général, les gros éditeurs sont eux-mêmes leur propre CNA. Donc c'est eux qui vont gérer ces vulnérabilités, et là, les valider, attribuer un numéro, etc. Donc par exemple, pour Microsoft, le CNA, c'est Microsoft. Et ainsi de suite. Je crois que, par exemple, Airbus, pour tous ses produits, doit être aussi son propre CNA, etc. Là, en l'occurrence, GitLab, c'est eux. Donc, on va dire que pour simplifier, selon le gouvernement américain, ils mettaient 7,5 à la vulne, mais GitLab, et quoi, ils ont vu ça? Ils ont dit non, non, c'est 10, c'est critique. Bref, fin de la digression. En fait, la cible, elle est assez large parce que ça impacte un très large spectre de versions aussi bien de l'édition communautaire, donc celle qui est gratuite et open source, que de la version entreprise, celle qui est payante et pas tant open source que ça. Du coup, l'impact de cette vulne, c'est quoi? Parce que ça fait, je sais pas, 5 minutes que je parle et je vous ai toujours pas dit de quoi il s'agissait. Et ben, en fait, ça permet de prendre le contrôle arbitrairement de n'importe quel compte utilisateur, du coup, sans être authentifié, sans interaction avec l'utilisateur, rien du tout. Comme ça, hop, on vole des comptes, comme ça, voilà. Ça fonctionne comment? Et ben, en fait, l'attaquant, il va fournir lors de la réinitialisation de mot de passe, il va fournir deux adresses de courriel dans la requête, et bah, la sienne bien sûr et celle de la victime. Et du coup, il va recevoir en gros le lien de réinitialisation de la victime. Donc comme ça, sur le plan, enfin sur le schéma logique du truc, c'est très simple. Et la cause, en gros, c'est parce que la vérification qui est censée être faite sur quel courriel est fourni pour la réinitialisation du mot de passe, et bah en fait, bah du coup, il peut être envoyé à une adresse non vérifiée. Donc ça, on verra plus en détail par la suite. Et ça a été identifié par un lors d'un programme de primo bug par un chasseur de bugs qui s'appelle Asterion04, qui est, je crois, en fait, si on regarde son compte HackerOne, c'est son premier bug. Voilà, c'est le mec, il arrive et hop, on va lâcher une critique dans GitLab. Bim, terminé, bonsoir. Donc c'est marrant. Les versions affectées, bah, il y en a beaucoup, comme je disais tout à l'heure. Donc en fait, de 16.1 à 16.1.5, 16.2 à 16.2.8, 16.3 à 16.3.6, blablabla, pour 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, bref, pour beaucoup de versions. Avant qu'on rentre dans le détail, bah pour la correction, c'est pas très compliqué. Comme d'habitude, pour dans beaucoup des cas, il suffit de mettre à jour vers une version non vulnérable. Ça va. Si on veut aller plus loin, ceinture bretelle, la défense en profondeur, vous connaissez, on peut activer l'authentification à deux facteurs. Et oui, comme ça, même si on est vulné, et ben on n'est pas vulné. Et par mesure de sécurité, alors là, pour ceux qui voudraient vraiment, et ben on peut réinitialiser tous les secrets qu'il y a dans le GitLab, tous les comptes, tous les jetons d'API, tous les certificats. Si on n'est pas sûr de pouvoir être en mesure de tracer si on était compromis ou pas, c'est ce qu'il faudrait faire en théorie, mais bon, là, c'est peut-être beaucoup de boulot. Bon, alors, maintenant, pour les petits auditeurs qui sont dans les équipes rouges, je vous vois. Et bah, vous voulez des petits détails croustillants sur l'exploitation. Et bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, hop, on va sur la page de réinitialisation de mot de passe, là, mot de passe oublié. Toc. On rentre par exemple bah, l'adresse de courriel de la victime. On clique sur envoyer. Évidemment, au passage, on a mis un petit proxy interceptant, genre burp. Ça va envoyer une petite requête post HTTP post vers slash users slash password. Et dans cette requête, qu'est-ce qu'on a? On a principalement, bah, on a deux paramètres en fait, deux paramètres post. Un qui s'appelle Authenticity Token, qui est tout simplement un jeton anti-CSRF. Entre parenthèses, pour ceux qui veulent automatiser la vulnérabilité et pas le faire forcément dans Burp, et ben on peut obtenir ce jeton anti CSRF en faisant une autre requête préalable sur slash user slash password slash new. Et là, on aura un jeton qu'on pourra utiliser dans ce formulaire. Et le deuxième paramètre, c'est user entre crochets rectangulaires email. Et normalement, c'est là qu'est contenue l'adresse email de la personne qui veut réinitialiser son mot de passe. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour exploiter la vulnérabilité? Eh bah, ben, c'est pas compliqué. À user entre crochets email, eh ben, on va re-rajouter une paire de crochets vides à la fin pour transformer le paramètre comme si c'était une variable qui a une valeur. Eh ben, on va le transformer en tableau. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va ajouter un deuxième, exactement pareil. Donc, user crochet email, fermer les crochets et hop, re-ouverture de crochet vide. Refermeture de crochet vide. Et donc là, on va donner une deuxième adresse qui est la nôtre, celle de l'attaquant. Et là, le petit détail, effectivement, quand j'ai joué avec, on peut tester. Au début, je ne comprenais pas que ça ne marchait pas. Et en fait, il faut absolument que dans la charge utile, tous les paramètres soient URL encodés, donc tous les crochets qu'il va y avoir, et aussi le arrobase qu'il y a dans les adresses. Il faut que tout ça soit encodé, URL encodé. Alors, le seul petit, entre guillemets, limitation du coup dans cette attaque, c'est que bien sûr il faut connaître l'adresse de courriel du compte qu'on veut usurper. Et en tant que non authentifié, en fait, enfin, ce qu'on va plus tendance à voir un peu partout, ça va être le nom de l'utilisateur et pas forcément son adresse de courriel. Alors après, l'impact, enfin, de ça, le prérequis de ça, il est variable selon si des projets sont exposés publiquement ou non. Parce qu'en fait, si par exemple sur Internet ou dans le réseau interne de l'entreprise, on a le petit GitLab où tout est soit en privé, tous les projets sont en configuration privée ou en interne, c'est-à-dire visible que par les utilisateurs authentifiés, on n'a pas forcément d'idée de nom d'utilisateur et non plus de leur adresse. Du coup, à part tester des trucs au hasard, ou bah après, si on sur Internet un peu au hasard, si on est dans l'entreprise et qu'on est, je sais pas, il y a un domaine Active Directory, qu'on a déjà compromis des comptes, on peut peut-être réutiliser des adresses. Après, si c'est que pour les devs et que les comptes qu'on a, c'est pas des comptes de dev, etc., peut-être que ça a pas marché. Enfin bref, pas forcément évident, évident. Par contre, à partir du moment où il y a des projets publics, là, c'est beaucoup, beaucoup plus facile parce que, dans l'historique Git, en fait, il y a toujours l'adresse de courriel de la personne qui est l'auteur du commit. Donc, du coup, c'est-à-dire que publiquement, on a des adresses, et donc du coup on peut les utiliser pour attaquer les comptes, les compromettre. Et si ils n'ont pas forcément des trucs intéressants, ils n'ont pas accès à des trucs intéressants, et on va peut-être avoir accès à d'autres projets qui seront qu'internes, qu'on ne pouvait pas voir avant, et on va peut-être trouver d'autres adresses de courriel, et ainsi de suite, et boucler jusqu'à tomber sur des profils de dev intéressants ou même de l'administrateur du GitLab. Et alors, à ce qui paraît, ça, j'ai pas vérifié, mais à ce qui paraît, le premier compte, enfin le compte administrateur, en fait, il a une adresse de courriel qui est préfixée, qui est déjà pré-remplie au moment où le compte est créé. Donc si elle n'est pas ch changée, cette adresse du compte admin, elle a une valeur fixe du genre administrator@gitlab.org ou un truc comme ça, je sais plus de tête. Et donc ça veut dire qu'on peut, enfin si cette adresse-là, elle n'a pas été changée, c'est toujours celle par défaut, on peut compromettre le compte admin directement. Ça peut être pas mal à savoir. Donc là vraiment, je vous ai donné toutes les petites astuces. Donc c'est quoi les plus-values pour l'attaquant de cette... Qu'est-ce qui fait en fait qu'elle a été notée à 10 sur 10 par GitLab? Déjà, GitLab c'est très répandu dans les entreprises. La vulnérabilité, elle est excessivement simple à exploiter. Enfin, si on veut l'exploiter manuellement, il suffit de lancer burp, copier-coller, rajouter un paramètre, rajouter son adresse de courriel, URL encoder le truc, faire for, enfin, transmettre et hop, c'est gagné. Ça peut donner des accès privilégiés. En fait, après, on va avoir accès à potentiellement plein de codes sources, potentiellement des fichiers de config avec des identifiants dedans, etc., etc. Et puis, on va potentiellement changer de périmètre, c'est-à-dire que là, on va compromettre un logiciel qui est GitLab en l'occurrence, et qui va potentiellement nous donner soit accès au code source où on va pouvoir trouver des vulnérabilités dans d'autres logiciels, soit directement nous donner des identifiants pour d'autres choses. Donc ça peut être intéressant vraiment de pivoter dans le réseau grâce à ça. L'attaque, elle est non authentifiée, donc il n'y a quasiment aucun prérequis à part connaître une adresse. Mais bon, ça c'est... Enfin, Voilà. C'est vulnérable par défaut, donc c'est-à-dire c'est dans la conf de base, c'est pas spécifique à si on a configuré ci ou ça. Et voilà. Donc maintenant, pour méga sûr de l'équipe bleue, recherche de compromission, et ben si vous voulez chercher des comportements dans les journaux d'événements, bah, par exemple, vous allez chercher la présence de requêtes HTTP sur le chemin bah, slash users slash password, qui aurait le paramètre bah, params.value.email dans le fichier GitLab Rails slash production underscore JSON.log, qui comprendrait du coup un tableau JSON avec plusieurs adresses. Voilà. Donc, si on a que une, ça paraît normal. Si on a plusieurs, pour param.value.email, et bah c'est louche. Vous pouvez remonter une alerte. Et pareil, vous pouvez vérifier la présence de meta.caller underscore ID de la méthode passwords controller, la méthode create, et target details dans cette fois-ci le journal GitLab Rails slash audit underscore json.log. Et donc là, pareil, on va regarder s'il y a un tableau JSON avec plusieurs adresses dans meta.caller ID. Voilà. Et donc là, on va passer vraiment à l'analyse pure et dure. Comment ça se fait que cette vulnérabilité a pu être introduite dans le code source? Donc elle a été introduite dans GitLab 16.1.0 le 1er mai 2023. Donc c'est-à-dire que c'est pas comme des fois certaines vulnes dans le kernel Linux, là, dans le noyau Linux, où on entend que oh oui, ça fait 10 ans qu'elle est là, ça fait 15 ans qu'elle est là. Non, non. Là, ça fait même pas un an, ça fait moins d'un an. Donc peut-être que ça limite un peu l'impact, que des gens qui dans leur infrastructure et qui ont des GitLab très vieux qui mettent jamais à jour, bah et bah ils sont potentiellement même pas vulnérables parce que leur version elle est trop ancienne et la vulnérabilité elle a pas encore été introduite. Donc ça c'est un peu le paradoxe des fois, le paradoxe de l'ancienneté. En fait, c'est suite à un changement qui permettait du coup aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe via une adresse de courriel secondaire. C'est qu'avant on pouvait demander la réinitialisation de son mot de passe qu'en fournissant l'adresse mail principale, primaire. Parce qu'on peut avoir plusieurs adresses attachées à son compte. Et donc là, ils voulaient rajouter une fonctionnalité qu'on puisse réinitialiser son mot de passe avec une adresse secondaire. Et c'est là qu'ils ont introduit le bug parce qu'ils n'ont pas fait les vérifs. Donc on va voir ça en détail. Du coup, c'est tout simplement un bug dans de logique, hein, dans le process, la procédure de vérification de l'adresse. Donc, comme d'habitude, hein, pour ceux qui le sauraient pas ou ça serait le premier épisode qu'ils écoutent, peu importe la plateforme où vous êtes, normalement, vous pouvez regarder dans la description de l'épisode et vous allez trouver un lien vers le blog où il y a un petit billet de blog où il y a toutes les notes de ce que je suis en train de vous raconter. Hein, finalement, et il y a des liens aussi, il y a toutes les informations que je dis que vous pouvez retrouver avec les références, etc. Donc n'hésitez pas. Donc là, par exemple, dans les notes qui sont attachées, j'ai mis le lien du diff du correctif pour ceux qui veulent aller analyser ça. Donc là, vraiment, on va rentrer dans le vif, dans le dur. Ça va être un peu plus compliqué à comprendre. Il va falloir bien s'accrocher, bien suivre. Donc, par défaut, la gemme, donc la dépendance qui s'appelle device, qui sert à gérer l'autorisation, de base, elle autorise la réinitialisation de mot de passe à partir d'un courriel primaire non confirmé. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous êtes inscrit avec votre compte. Vous avez enregistré une adresse de courriel qu'il fallait pour s'inscrire. Et au début, bah, elle n'est pas confirmé. Et donc par défaut, vous pouvez très bien redemander la réinitialisation de mot de passe pour votre compte, même si l'adresse elle n'est pas. Alors pourquoi? Parce que pour se prémunir d'un truc pas très grave, hein, mais lorsque un compte d'un utilisateur, il a une adresse primaire qui n'est pas confirmée, qui n'est pas validée. Ça veut dire que le compte, il n'est pas validé. On n'a pas pu vérifier que l'adresse, elle appartient bien à la personne qui a créé le compte, etc. Donc, la réinitialisation du mot de passe, elle peut être utile d'un point de vue de sécurité pour ces comptes qui ont une adresse qui n'est pas vérifiée. Pourquoi? Parce que, par exemple, imaginons qu'une personne malveillante ait créé un compte utilisateur GitLab. Et pour ce compte-là, elle met l'adresse de courriel de quelqu'un d'autre qui est pas elle. Et donc, forcément, c'est une adresse qu'elle maîtrise pas. Et donc, si la victime, hein, le propriétaire de l'adresse, par mégarde, reçoit le lien et clique dessus, du coup, il valide. Du coup, il valide que l'adresse elle est bonne et du coup, il va valider la création du compte. Et donc, si le compte il est validé, la personne, du coup, elle va pouvoir définir. En fait, elle aura accès au compte avec le mot de passe qu'elle a préenregistré à l'inscription. Et après, en fait, ce qu'elle peut faire. Une fois que le compte il est confirmé, c'est qu'elle va pouvoir enregistrer un second facteur d'authentification, 2FA, pour ce compte-là. Et donc après que le 2FA il était configuré, ça veut dire que le propriétaire de l'adresse, l'utilisateur légitime qui est la victime dans l'histoire, lui il pourra plus jamais accéder à ce compte-là parce que même s'il demande de réinitialiser le mot de passe, qui définit un nouveau mot de passe, et comme il y a le 2FA de configuré, après, il ne pourra plus accéder au compte. Et s'il réinitialise le mot de passe, l'attaquant non plus, lui, il aura plus accès au compte, parce que du coup, le mot de passe que lui, il avait configuré au départ sera plus le bon. Et le nouveau mot de passe, il ne le connaît pas. Donc, du coup, ça fait un peu un déni de service. Plus personne ne peut utiliser le compte au final, et l'adresse du coup elle est bloquée sur un compte qui est inutilisable. Donc en gros, bon, c'est un peu scénario un peu de déni de service un peu alambiqué, c'est-à-dire que grosso modo tu crées un compte avec l'adresse de de quelqu'un que t'aimes pas, quelqu'un que tu veux embêter, t'espères qu'il va cliquer sur confirmer, après tu fais ton truc, tu configures le DSFA, et après il est bloqué, ça veut dire qu'il pourra plus jamais se créer un compte. Avec cette adresse de courriel là, parce qu'elle est déjà enregistrée sur un autre compte. C'est un peu bidon, mais voilà. Donc c'est pour ça que de base, on peut demander une réinitialisation de mot de passe sur une adresse qui n'est pas confirmée. Donc pourquoi? C'est pour traiter ce problème là. C'est parce que le propriétaire de l'adresse, du coup, si au moment où il demande de réinitialiser, si au moment de, pardon, si l'utilisateur légitime qui possède vraiment l'adresse, au moment où il reçoit le courriel de confirmation, où il a un lien à cliquer dessus, au lieu qu'il y ait juste à cliquer sur le lien et que ça confirme direct le compte, et si quand il clique sur le lien de confirmer le compte, ça le ramène vers GitLab et ça lui dit tu peux saisir un nouveau mot de passe, et qu'il n'y a que si il saisit un nouveau mot de passe que là, ça va confirmer le compte, ça veut dire qu'à partir du moment où le compte, du coup, l'adresse et le compte sont confirmés, y a un nouveau mot de passe qui a été configuré. Et donc ça veut dire que en fait, le mot de passe qui était finalement, on va dire, temporaire jusqu'à ce que le compte y soit confirmé, que l'attaquant il avait défini, du coup il sera plus valide à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun moment où le compte il est confirmé et où l'attaquant il peut y accéder. Donc ça veut dire que là il ne pourra pas configurer le 2FA et donc il ne pourra pas bloquer le compte. Je sais pas si c'est très clair, limite il faudrait se poser, faire un petit schéma et tout. Et donc, par exemple, après, une fois que le formulaire, voilà, pour définir le nouveau mot de passe, il a été, il y a un petit bouton confirmer le compte, mais sur GitLab, mais pas juste en cliquant sur le lien qu'on a reçu dans le courriel, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Et du coup, bah, c'est pour ça, du coup, que en fait, il faut pouvoir autoriser de base la demande de réinitialisation de mot de passe sur une adresse primaire qui n'est pas confirmée. C'est pour ça. Alors, c'est vraiment le cas, le cas très très spécifique et un problème qui est très très marginal, pas très grave. Mais c'est pour ça. Et alors, donc là, on a parlé pour l'instant que des courriers primaires, des adresses de courriel primaire. Donc quand on va avoir enfin une demande de réinitialisation de mot de passe, du coup, l'adresse de courriel primaire, elle est associée au compte de l'utilisateur. Et après, on a un problème avec avec les adresses de courriel secondaires qui sont pas confirmées, qui ne devraient pas être liées au compte utilisateur jusqu'à ce qu'elles soient confirmées. Parce que si on envisage d'empêcher la réservation d'adresses de courriel sur GitLab par des courriels secondaires non confirmés. Donc, ça veut dire que, en fait, n'importe qui peut rajouter une adresse secondaire à son compte. On ne va pas faire de la réservation tant que l'adresse elle n'est pas confirmée. Pourquoi? Parce que bah, ça veut dire que si la réservation, ça veut dire que, en gros, une fois que elle est associée et réservée à mon compte, il n'y a aucun autre compte qui peut la rajouter sur son compte parce que cette adresse mail-là, elle est déjà confirmé et réservé. Et donc, en gros, on va pas la réserver tant qu'elle n'est pas confirmée, parce que en fait, on n'a aucune preuve qu'elle est à nous, sinon ça serait pareil que tout à l'heure, il y aurait un espèce de déni de service où le propriétaire légitime de l'adresse, bah, il ne pourrait pas l'utiliser sur son compte parce qu'il y aurait déjà quelqu'un d'autre qui l'aurait réclamé, quoi, en gros. Donc ça veut dire que comme on la réserve pas tant qu'elle n'est pas confirmée, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs comptes, du coup, qui l'ont, entre guillemets, associé avec leur compte. Et elle ne sera pas réservée, elle ne sera pas bloquée pour un seul compte, bah, tant qu'elle n'est pas confirmée. Donc ça veut dire que pour les adresses de courriel secondaire, il peut y avoir plusieurs comptes qui ont la même adresse. Et comme il y a plusieurs comptes qui peuvent avoir la même adresse, ça veut dire que si à un moment donné on demande la réinitialisation de mot de passe pour une adresse secondaire, qui était, du coup, je rappelle au tout début, l'introduction de la nouvelle fonctionnalité, qu'on puisse réinitialiser le mot de passe de son compte via l'adresse secondaire. Et bah, y a un problème, parce que GitLab, lui, du coup, il l'envoie à qui s'il y a la même adresse qui est enregistrée sur plusieurs comptes différents? Et donc c'est là qu'il y a un problème. C'est impossible d'identifier à qui elle appartient vraiment. Donc c'est pour ça que normalement, en fait, il faudrait ne jamais envoyer du coup un courriel à une adresse secondaire qui n'est pas confirmée. Parce qu'il n'y a aucune. Alors que pour les comptes primaires, du coup, ça avait un intérêt, du coup, de pouvoir envoyer à des adresses non confirmées, et de toute façon, il pouvait y en avoir qu'une, elle pouvait pas être enregistrée sur deux comptes. Pour les adresses secondaires, c'est pas le cas. Elle peut être sur plusieurs comptes. Et là, du coup, c'est problématique de l'envoyer à des adresses non confirmées. Donc, si on récapitule tous les cas de figure, si on a une adresse de courriel primaire qui est confirmée, alors c'est OK d'envoyer la demande de réinitialisation de mot de passe à cette adresse-là uniquement. Si on a une adresse mail, une adresse de courriel primaire qui est non confirmée, bah c'est aussi OK de l'envoyer uniquement à cette adresse-là. Donc ça, c'est tout la première partie de ce que j'ai expliqué pour empêcher le denying service, patati patata. Si on a une adresse de courriel secondaire qui est confirmée, bah il n'y a pas de problème puisque l'adresse elle est confirmée, donc elle est attachée de manière unique à un compte, etc. Donc c'est ce qu'on a expliqué là juste tout de suite. Donc c'est pareil, c'est OK pour envoyer du coup la réinitialisation de mot de passe juste à ces adresses-là uniquement. Si on a une adresse de courriel secondaire non confirmée, donc là c'est pareil, c'est ce qu'on disait juste à l'instant, là il faut ne rien envoyer à personne, parce que potentiellement, il peut y avoir conflit, ça peut être sur plusieurs comptes, machin, etc. Donc là, bah ça, c'est, il n'y avait pas de vérification là-dessus avant. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, là, si vous faisiez une demande de réinitialisation de mot de passe, si l'adresse, si vous demandez juste sans utiliser l'attaque en question, là, si vous demandez à réinitialiser sur une adresse secondaire, mais qu'elle était attachée à plusieurs comptes, bah, ça leur envoyait le courriel à une seule adresse, mais par contre, potentiellement, ça pouvait réinitialiser le mot de passe de plusieurs comptes. Après, là, ce qu'on pouvait faire aussi avant que la vulnérabilité elle soit corrigée, c'est qu'on pouvait demander à réinitialiser une adresse qui était inconnue, qui était associée à aucun compte. Donc là, dans la vulnérabilité en question, c'était hyper pratique parce qu'on n'avait pas besoin d'avoir un compte sur GitLab, sur le GitLab sur l'instance en question pour pouvoir exploiter la vulnérabilité, parce qu'en fait, vu qu'il n'y avait pas de vérification si l'adresse elle était inconnue ou pas, donc si elle était déjà associée à un compte ou pas, confirmé ou pas confirmé, on s'en fiche. Et bah, ça veut dire que bah du coup, enfin comme email comme courriel de la victime, bah, on mettait celui de la victime, et comme le nôtre, on mettait n'importe quoi, son adresse @gmail, son adresse @le nom de ton entreprise, ce que tu voulais. Donc ce qui fait que c'était hyper pratique d'avoir la réinitialisation de mot de passe sur des courriels inconnus, puisqu'on pouvait exploiter cette vulnérabilité-là sans avoir de compte sur le GitLab au préalable. Alors que là, s'ils avaient vérifié en amont que bah, de toute façon, on t'envoie pas un courriel à une adresse qui n'est pas associée à un compte utilisateur, et bah cette vulnérabilité-là, elle aurait eu comme énorme prérequis de devoir déjà avoir un compte. Donc le truc de voler un compte où il faut déjà avoir un compte, ça aurait déjà grandement. Et au lieu que ça soit une vulnérabilité de vol de compte arbitraire, ça aurait été juste une vulnérabilité d'élévation de privilège. Où en ayant un compte pas très privilégié, on peut essayer de voler des comptes plus privilégiés. Et là, au lieu d'avoir une criticité à 10, on aurait une criticité à, je sais pas, 3, tu vois. Donc ça aurait vraiment changé la donne. Et après, le plus gros trou, le plus énorme gros trou dans la raquette, qui n'était pas vérifié avant et qui est vérifié maintenant dans les versions qui sont corrigées, c'est que tout simplement, on n'envoie pas un lien de réinitialisation de mot de passe s'il y a plusieurs adresses de courriel qui sont spécifiées dans la même requête. C'est pas possible. C'est interdit. Et là, il n'y avait pas de vérification là-dessus. Et donc, bah, quand on combine qu'il n'y a pas de vérification sur le fait qu'on peut envoyer à plusieurs adresses à la fois, et qu'il n'y a pas de vérification sur le fait qu'on peut envoyer à une adresse qui est inconnue et qui est associée à aucun compte, et qu'il n'y a pas de vérification non plus que l'adresse elle peut appartenir à plusieurs comptes en même temps, bon bah là c'est n'importe quoi quoi. Et on se retrouve avec une vulnérabilité à 10 sur 10 de CVSS. Voilà. Voilà comment tout ça a été possible. Et donc, bah, dans les notes qui sont attachées dans le billet de blog, il y a un petit lien aussi vers AttackerKB, l'espèce de plateforme, le réseau social des CVE de Rapid7, où il y a tout un tas de gens très très intéressants qui donnent leur analyse d'auditeurs ou de choses comme ça, de personnes d'experts techniques sur les vulnes. Donc là, moi, j'en ai laissé une sur cette vulne-là. Et intéressant aussi pour ceux qui voudraient manipuler, alors bon, si un GitLab dans votre entreprise, je ne vous conseille pas du tout de la tester, hein, évidemment, c'est très mal. Et donc à cet effet, sur la plateforme TryAcme, donc qui est une plateforme de challenge, où il y a soit des petits challenges, soit des machines comme sur Hack the Box, soit un peu des trucs un peu guidés, un peu tutoriels, des cours, etc. Et bah ils ont fait un lab avec un GitLab avec cette vulnérabilité-là, qui est détaillée, qui reprend bah, de manière beaucoup plus synthétique avec moins de détails tout ce que je viens de vous dire. Et donc ça vous donne un environnement, voilà, vous avez un VPN, vous connectez, vous avez et vous pouvez vous entraîner dessus pour écrire un script d'exploitation, pour le tester manuellement, pour voir à quoi ça ressemble, côté bleu pour voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça envoie comme signal etc., etc., dans les journaux d'événements, sur le proxy, sur je sais pas quoi. Comme ça vous fait un environnement pour tester. Et puis bah voilà, j'espère que vous avez passé un bon épisode et que vous avez découvert de nouvelles choses aujourd'hui. Allez, prochain épisode.